Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Les jours passent, elle se fait canine pendant quelque temps, elle recommence, puis elle recommence avec ses camarades. Lui écrit un roman, une belle histoire d'amour entre un homme et une femme. Il ne veut rien d'autre. Mais une fois qu'il a fini son roman, elle veut le lire, il met la patte du parti. Cette fois, il refuse. Non, je ne veux pas, mon roman restera comme je l'ai écrit. C'est mon roman, elle lui dit furieuse. Tu n'es qu'un imbécile. Il ne sera pas édité par le parti et en plus il sera mis à l'index. Jean-André hausse les épaules et lui dit, vous faites comme les curés, vous mettez à l'index les livres. Votre liberté, c'est de la dictature. Vous voulez mettre les gens à vos ordres? Non, je ne marche pas. Je ne marche plus. Je suis un homme libre. Et je veux écrire comme je le désire. Je reprends ma liberté. Je ne suis au service de personne. Elle lui dit, c'est ce que tu crois. Mais en n'étant pas avec nous, tu te mets au service de nos ennemis. Tu donnes ta plume aux bourgeois. Il lui dit, j'aime mieux être au service de la bourgeoisie qui me laisse écrire comme je veux et vivre librement qu'avec vous. Parce qu'avec vous, j'ai l'impression de vivre dans un ghetto. Surveiller jusque dans ma vie privée. Même ma compagne, qui est celle que j'aime, me surveille au nom du parti. Non, cela suffit. Elle lui dit, puisque tu le prends comme ça. Elle se lève et lui dit, je ne reste plus. Il ne me reste plus qu'à partir. Il ne répond pas. Elle lui dit, bon, eh bien, je prends mes affaires et je m'en vais. Il ne bouge pas. Elle sort de la pièce. Il entend prendre ses affaires et les mettre dans des sacs de voyage. Il ne bouge pas. La liberté à tout prix.
Une fois qu'elle est finie de faire ses bagages, il entend sortir de chez lui.
Ouf ! Libéré ! Il se sert un verre de bourbon. Une fois avoir bu, il se dit, enfin libre. Ouf. Quinze jours plus tard, un soir qu'il est en train d'écrire à son bureau, l'on vient de sonner, il va ouvrir.
C'est Apolline. Bonjour, quelle surprise. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Viens, allons, sortons. Viens, entre. Elle entre. Assieds-toi. Elle va s'asseoir sur un fauteuil.
Tu veux boire quelque chose? Oui, un petit remontant. Du bourbon alors. Tu es venu me voir pour quelque chose? Elle lui dit. Non, pas précisément, mais j'avais envie de te voir. Je viens de sortir d'une histoire pas possible. Je m'étais mis avec un ami. En fait, c'est lui qui s'était mise avec moi. Et elle lui raconte son histoire. Lui en rit et lui raconte la sienne. Elle lui dit, nous sommes libérés tous les deux. Lui répond, oui. Elle lui dit, je crois que les hommes pour moi c'est fini. Il n'y a qu'avec toi où j'ai été heureuse. Il lui dit, moi aussi. Alors pourquoi ne pas nous voir plus souvent? Elle lui dit, je veux bien. Et ils décident de se voir plus souvent. À force de se voir plus souvent, ils finissent à oublier plusieurs fois l'or et de vivre ensemble. Apolline reste chez Charles-André. Très vite, d'une bonne camaraderie, elle est passée de tendresse à amour. Ils ont repris les habitudes de Paris, couchent, vivent ensemble, sortent toujours ensemble. Apolline a pris l'habitude de s'habiller comme son frère en pantalon et chemise. Les gens qui les reçoivent s'en amusent et les critiquent derrière leur dos. Charles-André continue à écrire, mais ses écrits ont moins de succès à cause que ses anciens lecteurs l'ont laissé et que les nouveaux l'ont cru qu'ils avaient passé à l'ennemi. Heureusement qu'il a pour vivre le travail de son père. Malheureusement, le frère et la sœur sont dépensiers, voyagent souvent ensemble, se droguent. Pour beaucoup de gens, ils sont devenus le couple infernal. On les reçoit parce qu'ils font partie du monde. La vie scandaleuse qu'ils mènent met en colère Jules, car il pense que les noms des beaux mandins est bafoué. Le temps passe. Jules a un deuxième enfant, Jean. Cet enfant, ce bébé, il en est tombé tout de suite amoureux. Il en est fou. La prend constamment dans ses bras, la pouponne, lui chante des cantines, la promène. C'est sa petite princesse. Sa femme est heureuse de le voir comme ça. Le temps passe. Et petit à petit, Jules, sans savoir pourquoi, devient taciturne, très triste. Il s'arrête de s'occuper de son enfant. Quelque chose à l'intérieur de lui l'inquiète. Mais quoi? Ses cours marchent bien, ses livres se vendent de mieux en mieux, et sa petite famille ne lui cause pas trop de soucis. Marie s'inquiète de le voir taciturne. Sans le lui dire, elle fait venir le médecin chez eux. Le docteur Dutheil Jean est un jeune médecin de 30 ans, grain, mince, habillé de noir. Il arrive un après-midi. Le domestique l'a mené au salon où est madame. Elle est au salon, debout. Et lui dit, bonjour docteur, je vous ai fait venir, c'est au sujet de mon mari. Je le trouve fatigué, déprimé. Si vous pouviez le voir.
Oui, bien sûr, madame.
J'allais aller à son bureau. Je ne lui ai pas dit que je vous avais convoqué.
Elle mène le docteur au bureau.
Entrez.
Il est assis à son bureau. Elle va vers lui et lui dit « Je me suis permis, c'est de faire venir le médecin pour qu'il t'ausculte.
Mais je ne suis pas malade.
Tu ne vas pas bien.
Or, si tu veux,
il loge les épaules, lui dit « Puisqu'il est là, fais-le venir. » Elle va faire rentrer le médecin. Il ausculte et lui dit qu'il faut un changement d'air, de vie.
Partez, faites un voyage seul avec votre femme.
Vous avez raison.
Peut-être oui, je partirai.
Il en parle à Marie, qui est d'accord pour partir avec lui.
Les enfants les enverront chez leurs grands-parents.
Il décide de partir pour Venise. Jules ne connaît pas. Les deux enfants ont été envoyés chez Constant et Jules et Marie sont partis pour Venise.
Bonjour, monsieur le professeur von Aschenbach. Au nom de la direction, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue.
Arrivé à Venise, ils vont à l'hôtel où ils sont réservés leur chambre. C'est un des plus grands hôtels de Venise, avec vue sur la plage. Ils ont une suite, salon, chambre, salle de bain, avec balcon. Tout est parfait.
J'espère que vous passerez d'agréables vacances.
Les premiers temps, Jules et sa femme passent leur séjour dans le hall de l'hôtel où, assis sur des chaises longues à la page. Un après-midi, dans le salon de l'hôtel où sont, Jules voit arriver en face d'eux une femme et un jeune adolescent. La femme est grande, mince, blanche et très élégante avec une robe crème. Le jeune adolescent d'à peu près 14-15 ans est mince avec une grâce extraordinaire. Les cheveux mi-longs blonds qui ondulent. Elle a les traits du visage très fin. Est habillée d'un costume marine blanc. Jules a tout de suite remarqué sa grâce, sa beauté. Son côté nonchalant et plein de grâce. De la façon dont il se tient, une main touche son menton, l'autre reste sur le dossier, légèrement penché sur le côté droit. Il semble regarder sans voir. Jules se dit que c'est l'être le plus exquis qu'il n'ait jamais vu. Il est comme hypnotisé par ce jeune garçon. Sa femme le voit, les yeux fixes, et lui demande « Tu n'es pas bien ?»«
Si, ça va très bien. »
Désormais, durant leur séjour, Jules se sent obsédé. Le jeune homme à la plage, au salon, à l'hôtel, à la salle à manger, ne fait que le regarder. Sa femme s'en aperçoit et n'ose rien dire. Chaque fois qu'il est dans un endroit, il cherche pour voir le jeune homme s'il est là. À force à des anciens remarquer quand monsieur l'observait, il le regarde avec dédain et en passant vers lui sourit un sourire malicieux. Quelquefois l'adolescent se retourne pour voir l'homme. On a l'impression c'est que le jeune adolescent sait le dessus. Les désirs qu'éprouve Jules et qu'il en joue. Il fait le coquet. Quelquefois, il le regarde bien en face avec un air de lui dire « Tu ne mourras jamais » ou prend des poses avenantes pour lui montrer sa force sur lui. Jules se contente de le regarder et ne cherche même pas à lui parler. D'ailleurs, très vite, il s'est rendu compte qu'il y a un mur entre lui et le garçon. Ce mur, c'est l'âge. Jules, en le voyant, se sent vieux et laid. Il a l'impression que l'adolescent est dans un autre monde et que le sien a déjà un pied dans la tombe. La jeunesse a la beauté du garçon, lui montre le temps qui passe. Ce qui fait que Jules regarde l'adolescent comme quelque chose d'inapprochable. Mais cela ne l'empêche pas malgré lui de l'aimer. Il aimerait aussi le toucher, tout en sachant que c'est impossible. À quoi pense Marie en le voyant épier, surveiller ce jeune garçon? Ils sont assis sur des chaises longues, sur la plage ou dans un salon de l'hôtel. Le jeune garçon et sa mère sont toujours en face d'eux. Il se dit que ce mari est d'une sensibilité particulière, comme tous les artistes, et que s'il s'est épris de ce jeune garçon, c'est qu'il lui rappelle quelque chose qui lui fait penser à son fils. Mais elle voit ses regards insistants, l'adolescent qui semble lui répondre. Elle a l'impression, malgré elle, qu'un langage muet entre les deux se dit, que ce langage semble un langage amoureux. Son mari et le jeune garçon lui semblent penser à deux jeunes pigeons au temps de l'amour. Cette idée la fait sourire. Elle les épie avec moquerie. Puis, elle secoue la tête et se dit, ce ne doit pas être ça. Peut-être a-t-il un projet de livre. Elle se penche vers lui et lui demande « Tu vas bien ?»« Oui, oui, je vais très bien. »« Tu n'es pas... Ça va très bien ?» Il lui sourit et lui dit « Pardonne-moi, mais je contemple tout ça. » Le jeune homme se lave. Il est en maillot de bain marine. Il va plonger dans la mer argentée. Jules le regarde. Il s'est dit qu'on dirait un dieu dans ce décor. Le jeune Achille. Les jours passent ainsi. Et un matin, il voit la mère et l'adolescent partir. Jeune garçon se retourne avant de quitter l'hôtel et sourit à Jules. Jules est troublé. Une grande mélancolie lui vient. Il a l'impression que le jeune homme lui a pris sa jeunesse. Il se sent très vieux. Il a mal de partout. Sa père s'aperçoit. Ça ne va pas ? Tu sens pas? Que se passe-t-il? Je crois que Venise ne me convient pas. Ça a un côté macabre. Sans le froid de la mort.
Il est vrai que monsieur veuille partir demain.
Elle lui dit...
Oui, demain, oui.
Bon.
Tu veux que nous rentions
monsieur, je suis chargé de vous
oui,
dire
je veux bien.
De venir quoi
excusez-moi, je voudrais revoir les monsieur, enfants.
Le va partir, le
ça me fera du bien.
Ça, le temps presse.
Mais une fois à Lyon, il est toujours hanté par Venise et ce qu'il a vécu. Il décide pour se libérer, c'est d'écrire une histoire qui se passerait à Venise. L'histoire d'un homme veuf, seul et vieux. Il est fatigué, il va passer quelques jours de repos à Venise. Malheureusement, il trouve sur son chemin un bel adolescent d'une beauté troublante qui est accompagné de sa mère. L'homme est troublé par cette beauté et ne peut s'empêcher de le regarder. Il passe son temps à le suivre du regard et à le suivre dans les rues de Venise. Il aime de plus en plus, mais voit que le jeune ne fait pas attention à lui. Un jour, il se regarde dans la glace et se voit vieux, moche. Il a honte. Et décide de s'arranger, va chez le coiffeur, se fait une teinture, etc. Mais le jeune garçon le regarde avec dédain et sans vouloir lui dire « Tu as beau essayer de m'attraper, tu ne m'auras jamais. » L'homme souffre et... Ah. Comme il s'essouffle, il comprend ce que veut dire l'âge de ses artères. Fin d'après-midi, après avoir marché pendant des heures à travers Venise, épuisé de l'avoir suivi, le jeune adolescent arrive à la plage. L'homme qui le suivait, essoufflé, s'assoit sur une chaise longue. Il voit l'adolescent qui regarde l'horizon de la mer. Il le voit de dos, lever le bras et indiquer le ciel. L'homme se sent mal, se soulève et tombe. Mort, l'enfant symbolise l'avenir et a guidé l'homme jusqu'à la mort. Voilà le résumé grossier de ce qu'a écrit Jules. La nouvelle a bien plu à sa femme et elle a compris ce qui s'était passé à Venise. Elle a eu un beau succès. Personne n'a réellement compris ce qui s'était passé, car de son histoire d'amour, il en a fait l'histoire du vieil homme et de la mort. La mort symbolisée par le jeune adolescent. Dans la nouvelle, c'est le jeune adolescent qui mène le vieil homme à la mort. De l'histoire d'amour qu'il a eue, il en a fait une histoire symbolique sur la mort et universelle. Jules va mieux. Il peut garder dans son corps cette rencontre avec la beauté. Ce souvenir permet à son corps de rester en paix. Le temps passe. La vie reprend avec sa femme qu'il aime affectueusement. Un jour, leur naît un nouvel enfant, Pierre. Jules est comblé. Charles-André et Apolline continuent leur vie dissolue et ne se cachent pas leur relation intime. Charles André, dans ses romans, dit tout. C'est le sujet principal de ses livres. Jules, qui les lit, est scandalisé. Il lui écrit pour lui dire qu'il veut le voir. Charles André va à son rendez-vous. Jules le reçoit à son bureau. Jules lui dit, « J'ai lu tes écrits et je suis scandalisé parce que tu aimais. Tu ne caches même pas ta vie intime. Tu n'as pas honte de raconter tes rapports avec ta sœur ? Que doivent penser les gens ? Je demande d'arrêter ce scandale. » Charles André lui dit, « Tu n'as rien à m'interdire. Je fais ce que je veux.
Je suis ton frère aîné.
Et tu soudes la famille. Pense à tes parents. Je suis major. Et puis ce que j'écris n'a rien qui peut faire rougir. » Je lui dis, « Menteur. Et ta vie avec Apolline, ce n'est que des histoires d'artistes. C'est dégoûtant que tu écris. Tu soudes notre famille. Il faut absolument arrêter. Je soude ma famille et toi, avec tes écrits. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu crois que je n'ai pas compris certaines choses. » Jules devient tout rouge. Il se dit que son frère le connaît suffisamment pour lire entre les lignes. « Va-t'en ! » Charles André se lève et sort de la pièce. Le temps passe. Jules continue toujours à beaucoup écrire. Ses livres sont appréciés par un nombre croissant, même à l'étranger. Au lycée, il est respecté par ses élèves et ses confrères, car pour eux, c'est un monsieur. Il respecte beaucoup sa femme et lui est très dévoué. Elle fait son devoir de maîtresse de maison et s'occupe de l'emploi du temps de son mari, ce qui n'est pas une mince affaire, car il ne doit en aucun cas être gêné. Les enfants grandissent bien. Ils ont peu de goût à jouer avec le père et ils rentrent tard le soir. La plupart du temps, ils sont déjà couchés. Et lorsqu'il écrit à la maison, la maison doit être silencieuse. Il lui arrive souvent de voyager pour faire des conférences et présenter ses livres. Le temps passe. Comme pour tous les réveillons de Noël, la famille Beaumandin est réunie. Jules, sa femme, ses trois enfants, son père, sa mère et ses beaux-parents. Avant d'aller à la messe de minuit, on a passé la soirée au salon, près du feu, à jouer à des charades. Et Jules a lu un conte de Noël qu'il a écrit pour cette occasion. Puis avant de partir, on a mangé des brioches avec du chocolat. On est parti à la messe de minuit, bien mitouflé de manteau, châle, gants et chapeau. Car cette année de 1897, il fait particulièrement froid. La neige a tombé toute la journée et les rues sont toutes blanches, ce qui donne un charme peu ordinaire et cache la misère de la chaussée. Maintenant, il gèle. La neige craque sur leurs pas. Il y a du monde dans les rues pour aller à la messe. Jules marche en regardant droit devant lui. Sa femme tient la main. Les enfants sont déjà grands. Albert a 14 ans, Jean 13 et Pierre 12. La famille va toujours à la messe à pied car l'église n'est pas loin. Enfin, ils entrent dans l'église. Tout illuminé et chauffé, il y a du monde qui entre avec eux. Après la messe, ils sont revenus chez eux, se sont déshabillés, sont allés à la salle à manger pour le souper du réveillon. Jules s'est assis entre sa femme et son père. Il voit son père triste. Ça ne va pas, père.
Je pense à ton frère et à ta sœur.
Ne t'en fais pas pour eux. Ils ont choisi de vivre d'une façon immorale et scandaleuse. Il vaut mieux qu'ils ne soient pas là pour une fête comme celle de Noël.
Tu as raison.
Jules, regarde ses enfants, comme il les fait souvent avec satisfaction. Mais cette fois, il est arrêté par la beauté et la grâce de Pierre. L'enfant est en train de manger bien sagement son potage. Ses cheveux châtains ont poussé et tombent en boucle en dessous de la nuque. Sa peau très blanche, ses lèvres rouges et pulpeuses, ses yeux d'un bleu profond sont grands. Il est habillé d'un costume marine et chemise blanche. Jules n'avait pas fait attention à lui, ou n'avait pas plus fait attention à lui qu'aux autres. C'est-à-dire que pour lui, cet enfant, que ses enfants ne font qu'en bloc, sans préférence. Et là, la surprise, il voit pour la première fois Pierre et ne voit que lui. Il est troublé, mais pour se rassurer, il se dit qu'il a vraiment un très bel enfant. Sa femme le voit, qu'il a le regard fixe et lui demande « Il y a quelque chose qui ne va pas ?» Il lui répond « Je trouve notre fils Pierre être très bel enfant. » Elle regarde son fils et le trouve pas plus beau que les autres. Il lui dit « Oui, il est très beau. »
Pendant tout le repas, Jules ne parle pas.
Il est ébloui par la beauté de son fils. Pierre reste sagement assis entre sa grand-mère et sa sœur. Il se demande ce qu'il va avoir comme cadeau. Il aimerait une lanterne magique et se voit déjà projeté au salon les contes de Perrault ou un épisode de l'histoire de France. Il ne fait pas attention au regard de son père, qui pour lui est un adulte familier parmi les autres, qu'il faut respecter et si possible aimer. Après le repas, qui a duré plus longtemps à cause des nombreux plats, on est allé au salon. Jules s'est assis dans un fauteuil près de ses parents. Jeanne et Albert se sont assis sur le plancher en face de la cheminée. Pierre, calme, s'est mis le dos contre la cheminée et n'a pas envie de jouer. Il a envie de s'amuser à écrire, d'être dans sa chambre pour écrire une histoire de petit chat noir sur la neige, une histoire qui s'est inventée pendant la messe. Un domestique passe et sert le café ou des tisanes. Jules est toujours ébloui par la beauté de Pierre. Il le voit debout, le dos à la cheminée, une main derrière sa nuque, l'autre dans les poches de son pantalon, le visage étrangement pur. Il le trouve d'une beauté exquise, mais au bout d'un moment, cela le gêne. Que m'arrive-t-il? Je ne vois pas. Puis, une heure plus tard, chacun va se coucher une fois que les parents sont partis. Jules embrasse ses enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Il a le cœur qui bat très fort lorsque c'est le tour de Pierre. Il lui donne un baiser sur la joue, une caresse dans les cheveux. Sa mère le voit et lui dit devant l'enfant: c'est vraiment un très bel enfant. Et les enfants dans leur chambre, les parents dans la leur. Une fois que Jules s'est habillé en robe de chambre, il va frapper à la porte de la chambre de sa femme.
S'approche du lit, elle est déjà au lit. Il lui dit: bonne nuit. Bonne nuit. Ça va, Jules? Oui, oui, rien de grave. Et sort de la chambre de sa femme.
Mais en passant devant la chambre de Pierre et de son frère, il voit qu'il y a la lumière qui passe à travers le bord de la porte. Il entre. Les enfants sont au lit. Albert a un livre à la main et Pierre un cahier où il écrit. Lorsque Jules est entré, les enfants se sont arrêtés de lire et d'écrire. Pierre soupire, voit son père s'approcher de lui, lui sourire, se pencher. Tu n'as pas sommeil ? Non ? Qu'est-ce que tu écris ? L'histoire d'un petit chat. C'est un peu tard pour écrire. Demain ce sera encore la fête. Il prend les cahiers, le cahier, le crayon, qu'il dépose sur la table de nuit. Voit la petite poitrine de son fils à cause du bouton de la chemise de nuit qui n'est pas fermé. Délicatement, il le lui boutonne, passe la main sur son visage, lui donne un baiser. Étends-toi. Pierre s'étend et son père le couvre, puis se redresse. Bonne nuit. Et il sort de la chambre. Sa chambre, une fois couché, dans le noir, Jules a toujours le visage de son fils près de lui, en esprit. Il voit sa poitrine lisse et douce. Il a honte de ces images. Que m'arrive-t-il ? Il ne le faut pas. Mais Jules sait qu'il est entré dans une période dure, que son cerveau va être obligé de se partager en deux, que cela va peut-être le mener à la folie, une folie étrange, cachée, il se dit, deux êtres en moi. Peut-être que les choses rentreront dans l'ordre demain, que ces deux choses, ces deux êtres vont se cacher à l'intérieur de moi-même. Mais il sait qu'il n'y a pas beaucoup de chance. Je suis tombé bien bas. Jusqu'à présent, ce n'était que des gens en dehors de la famille. Mais là, mon propre fils, à part la loi des hommes, il n'y a rien qui n'empêche cette infamie. Le corps se fiche de la filiation, il ne voit que le beau. Je ferais mieux de me tuer avant qu'il m'arrive un grand malheur à cause de moi. Je maudis. Notre famille l'est. Moi, mon frère, ma sœur, nous avons tous péché. Nos parents ont donné naissance à des monstres. Je ne toucherai pas mon fils. Mais dans la nuit, des images assaillent, lui montrent son fils en prise. Ah, des voluptueuses personnes, femmes ou hommes, se réveillent plusieurs fois en sueur dégoûtée. Personne ne le touchera, ni moi ni un autre. Personne ne le tolérera. Et il se rendort. Le lendemain, ils ne se souviennent de rien, mais durant toute la journée, son regard se pose sur Pierre, qui a bien eu sa lanterne magique. Jules, chaque fois qu'il passe devant lui, le caresse. Quelque chose est plus fort en lui. Ce n'est plus le même Jules. Il est toujours droit, net, mais cela cache quelque chose. Son âme est tourmentée. Sa femme trouve qu'il doit être encore fatigué. Mais elle est heureuse que son mari semble s'occuper de ses enfants, car lorsqu'elle voit qu'il en touche un, elle croit qu'il les touche tous. Le temps passe, passe, le temps passe, passe, passe. Sur le quai de Saône, il le voit, le dos contre le muret, de taille moyenne, habillé d'un costume gris clair. Leurs regards se sont croisés, et le regard d'une beauté douce, ni fade, ni dédaigneuse. Les cheveux courts en teint clair qui ondulent sur le devant, de grands yeux bleus et d'une grande douceur. Il le regarde, mi-surpris, mi-inquiet, mais normalement. L'homme se sent gêné, mais veut le voir. Il reste un moment devant le jeune homme, machinalement, s'assoit sur le muret et fait pendre sa jambe, et l'autre la laisse soulever sur le muret. Ce qui fait qu'il montre ses entre-deux jambes. La jambe qui est tenue levée, il la tient par ses deux mains. Dessus, il continue à regarder l'homme. L'homme n'en peut plus. Il décide de s'éloigner. Mais en même temps qu'il s'éloigne, il ne peut s'empêcher de se retourner. Il le voit de dos. Puis après avoir fait quelques mètres, il se retourne et voit le jeune qui s'est mis debout, les jambes légèrement croisées, et se les serre de temps en temps comme pour se donner du plaisir à son sexe. L'homme le voit se rapprocher vers lui. Le jeune lève la tête de temps en temps vers lui. L'homme passe devant lui et le regarde. Le jeune aussi. L'homme gêné fait celui qui regarde les fiacres passer, comme s'il allait en appeler un, et va se plaquer contre le muret. Le jeune le regarde de temps en temps. L'homme croit que le jeune le regarde, mais il s'aperçoit qu'il guette l'arrivée d'un fiacre. Il fait signe à un qui s'arrête. Le jeune homme, avant d'entrer dans le fiacre, regarde l'homme, et lorsque le fiacre part, il le regarde encore. L'homme l'a suivi du regard, entré dans le fiacre, et son regard a vu celui du jeune homme. L'homme s'est rendu compte au moment où le fjork est arrivé, que le jeune l'a regardé simplement, gentiment, sans une animosité, sans arrière-pensée. Et quelque chose lui dit, qui sait ce que veut l'homme, et qui se dit qu'il aurait accepté d'être suivi. C'est en tout cas ce que pense l'homme. Ce qui l'a surpris et ému, c'est ce regard, son charme, ni dédain, ni vice, mais naturel et pur, simplement et élégant. L'homme a été ému et a eu envie de mourir. Une souffrance terrible l'a prise, la souffrance de ne pouvoir avoir, de ne pouvoir être aimé de cette beauté, la souffrance des misérables. La souffrance est d'autant plus forte qu'elle est due par une beauté qui ne l'a pas dédaignée. Si ça avait été une beauté dédaigneuse, il aurait reçu une gifle et ça aurait été fini. Mais là, il y a comme une pointe d'espoir. Peut-être qu'en le surveillant, peut-être que s'il lui parlait, il suffit qu'il dise un mot pour faire avancer les choses. Et là, il pourrait lui dire son amour, ce qu'il pense de lui et de ses sentiments pour lui. Et puis après, même s'il le rejette avec les mots blessants, il saura malgré tout ce qu'il ressent pour lui. Il aimerait entrer dans son monde, à lui, par les paroles, sans le sexe. L'homme a encore envie de le voir et décide de revenir les mêmes jours de la semaine, au même endroit. Qui sait, le hasard fera leur rencontre. Une semaine plus tard, il revoit le jeune homme au même endroit, le dos tourné au muret, le visage toujours aussi doux. Là, il n'hésite pas, se met à côté de lui à distance respectueuse. Le garçon le regarde toujours, l'homme aussi. « Pourquoi me regardez-vous ? » Il vient de parler d'une voix douce et calme. L'homme s'approche de lui et lui dit « Je vous regarde parce que je vous trouve très beau. » D'une beauté douce et calme, d'une beauté tellement douce et calme qu'on ne peut avoir de mauvaises pensées en vous voyant. Je suis très sensible à la beauté. Cela me rend malade. Ça ne vous gêne pas? Non? Vous aimeriez quoi exactement? J'aimerais vous voir nu pendant un moment. Votre visage merveilleux, votre corps que j'imagine beau, et élégant sous vos vêtements. Si vous voulez, nous allons quelque part. Vous voulez bien? Oui. Allez où? Chez moi? Oui. Et il le mène chez lui, traverse les quais, suivent une avenue et prennent une rue. L'homme ne veut pas penser. Ça, ces 10 idées sont contradictoires. Ils lui disent que le jeune va lui demander de l'argent ou le faire chanter. Ils entrent dans un immeuble cossu du 19e.
Vous téléphonez ?
Prennent les escaliers de marbre jusqu'au premier.
Éclair, entre et ferme la porte.
Une fois la porte fermée, se sent tout surpris et ému d'avoir chez lui l'être qu'il désire le plus,
l'être qui lui paraissait le plus inaccessible. C'est comme dans un rêve. Le jeune regarde calmement. L'homme n'en peut plus. Doucement, il se plaque contre lui. Il caresse ses cheveux, puis le corps, et lui donne un baiser dans le cou. C'est chaud, c'est doux, autant que c'est beau. Il a l'impression que le jeune le donne comme une offrande, pour lui faire plaisir gentiment. Le jeune a le visage toujours doux et tendre. L'homme se dégage doucement, lui enlève sa veste qui tombe à terre, et lui déboutonne sa chemise. Apparaît au fur et à mesure une peau douce et chaude et blonde, toute blanche, une poitrine mince. Le jeune l'aide à se déshabiller par de petits mouvements de son corps, le visage toujours aussi doux, puis le pantalon. Il fait descendre le long du corps des jambes minces et fines, sans poils, un petit caleçon avec ou sur le devant une bosse. L'homme a chaud. Il se baisse, met les mains sur le caleçon et le descend tout doucement. Apparaît une verge, pas très grande, plutôt petite, mince et blanche, qui bande, et de mignonnes petites couilles, bien faites et pleines. En haut du sexe, il y a un minuscule touffe de toile blonde, de poils blondes. La taille fine, les fesses bien faites, sans poils. L'homme doucement lui donne des baisers sur le ventre et descend. Là, il lui mouille le bout du sexe et le suce. Le jeune se laisse aller et de temps en temps, il a les jambes qui frétillent. Par moments, l'homme lui mordit les couilles. Le jeune dit tout doucement, une fois, « Papa !» L'homme a à peine entendu. Puis, une fois que le jeune a joui, l'homme lui essuie son sexe avec son mouchoir. Il le prend dans ses bras et le caresse tendrement, en le plaquant contre lui. « Mon petit ange, je t'aime. Si tu savais, tu es tellement beau. » Il lui donne des baisers sur la joue et dans le cou. « Tu m'en veux de ce que nous avons fait ?»« Non. Tu as quel âge ? 17 ans. » Il en paraît moins. Le jeune semble très calme et naturel. Il reste un moment. Alors c'est, le jeune dit, il faut que je parte. L'homme se dégage. Le jeune remonte son caleçon,
son pantalon. L'homme lui donne sa chemise. L'aide à s'habiller et lui donne sa veste.
Je dois partir maintenant. L'homme est tellement triste qu'il se plaque, le plaque contre lui. Il sent son corps si doux. Il lui dit, j'ai peur de ne plus te revoir. Je reviendrai. Quand? Je ne sais pas. Je peux te raccompagner jusqu'au quai? Oui. Et ils sortent de l'appartement. Le fiacre s'arrête, le jeune le prend, l'homme regarde le fiacre s'éloigner et s'en retourne. Il pense à ce qu'il a fait et vu. Et rêve. Puis il devient mélancolique et rêve du jeûne
d'une deuxième rencontre. Un jour dans son lit, il s'est masturbé en pensant à ce qu'ils ont fait. Il se souvient de ce qu'a dit le jeune, la seule chose qu'il ait dit durant l'amour, « Papa ». Cela trouble l'homme et se demande si le jeune aime son père, si son père l'a violé, s'il désire un père qu'il n'a jamais eu. Pourquoi papa ? Les jours passent, l'homme va toujours sur les quais, plusieurs fois par jour, mais ne trouve pas le jeune. Il a même oublié de lui demander son nom, et lui ne lui a pas donné le sien, ni son adresse. Si le jeune n'a pas fait attention en venant chez lui, il ne sait pas où il habite, ni qui il est. Tous deux ne savent rien de l'autre, sauf leur corps, mais c'est peu pour un monde aussi grand. L'homme se dit tristement qu'il ne le verra sûrement plus. Les jours passent, il se dit qu'il ne le reverra peut-être plus. Un soir, on a sonné à sa porte. Il va ouvrir. Radio Canyon vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Délire de la sublimation, dont c'était la 40e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.